Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Alors c'est vous qui prenez la parole dorénavant. C'est votre émission, vous le savez, jusqu'à 14h. On va accueillir avec plaisir, comme annoncé, François Germinet, qui est le président de l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et président de la commission formation de la CPU, aussi la conférence des présidents d'université. Cette nouvelle plateforme donc d'inscription pour les études post-bac est en vigueur. Elle s'appelle, on le sait, Parcoursup. Elle a été lancée en fin de matinée tout à l'heure. Elle succède à la très critiquée APB qui, on en avait beaucoup parlé dans l'émission, avait laissé bon nombre de jeunes sur le carreau. Les futurs bacheliers peuvent donc se familiariser dès maintenant avec cette plateforme. Ils ne pourront s'inscrire et rentrer leurs vœux qu'à partir du 22 janvier. François Germinet, on est simple pour les auditeurs. Est-ce que cette fois, on peut espérer que les ennuis soient terminés?
En tout cas, ceux d'APB du tirage au sort vont être définitivement derrière nous, ce qui est déjà un bon signal pour les élèves de terminale et puis pour les familles. Maintenant, c'est une nouvelle plateforme. Voilà, le coup est parti. C'est l'affectation dans le supérieur pour la rentrée 2018 qui débute. Et on espère bien que ça sera un grand succès. En tout cas, tout le monde est mobilisé, à la fois dans les lycées, avec le doublement des professeurs principaux, avec les conseils de classe qui vont aider les jeunes à formuler leurs vœux, et puis une longue période de plusieurs semaines qui va permettre aux jeunes de préciser leurs vœux. Je leur conseille de pas indiquer leurs vœux tout de suite dès le 22 janvier, mais de prendre leur temps, de regarder l'ensemble des formations qui sont offertes, et puis de prendre conseil auprès de leur personnel, voire même de contacter les écoles et les universités pour savoir si ce qu'ils souhaitent faire est en accord avec ce qu'ils ont fait auparavant.
Donc on va se promener sur la plateforme, on regarde et puis on prend son temps pour réfléchir, on ne se précipite pas. C'est ça votre conseil, François Germinet?
Voilà, et on lit les attendus, les fameux attendus que tout le monde attendait.
Alors justement, ces attendus. Chaque université va dire, moi je recrute sur tel et tel critère.
Alors, on a quand même défini des attendus nationaux. Tous les profs et puis les différentes composantes des universités ont travaillé collectivement au niveau national pour définir un premier cadrage national qui donne quand même les grandes lignes. Après, il peut y avoir des précisions université par université, portail par portail, parce que tout le monde ne fait pas exactement la même chose. Mais quand même, les attendus nationaux représentent le premier grand cadrage que les étudiants doivent regarder.
On peut prendre un exemple, je ne sais pas, le droit par exemple, vous pouvez me dire quels sont les attendus en droit de mémoire?
Alors, donc en droit, vous avez une spécificité qui est qu'il n'y a pas cette matière-là en terminale. Donc du coup, on va rester sur des notions assez générales, du genre avoir un esprit de synthèse, être capable de s'exprimer correctement, pouvoir s'exprimer à la fois correctement à l'écrit ou à l'oral. Souvent, un esprit un peu scientifique est utile pour pouvoir accumuler un grand nombre d'informations et pouvoir les restituer correctement.
Mais l'esprit de synthèse, ça, les professeurs en sont certains, ils ne vont pas se tromper là-dessus, parce que leur avis va être déterminant quand même.
Dans la fameuse fiche à venir, les étudiants vont avoir une fiche à venir par vœu, et puis qui va comporter à la fois certaines notes, et puis certaines notes de première et de terminale, et puis des avis des professeurs principaux et de l'établissement sur le degré d'autonomie, la capacité à travailler en groupe, notamment l'esprit de synthèse. Et non, on pense que les lycées, la structure de l'établissement et la mieux à même de pouvoir porter un jugement, en tout cas sur l'étudiant lui-même.
François Germinet, premier sentiment d'auditrice qui nous rejoint depuis Nantes en Loire-Atlantique, c'est Hélène, que l'on salue évidemment. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez la bienvenue. Votre regard à vous de maman, et notamment en liaison avec le parcours de votre fille?
Eh bien moi, ça me rassure pas du tout. Enfin, ce qui me rassure, c'est que ma fille n'est pas à subir le nouveau système, à dire vrai. Parce que Charlotte a toujours été une élève relativement moyenne au regard de ses professeurs. Et elle a été relativement découragée, notamment son année de terminale, en disant que ça serait pas la peine de tenter médecine parce qu'elle l'aurait jamais, que c'était pas pour elle et qu'il fallait qu'elle cherche autre chose.
Et elle s'est quand même inscrite en médecine.
Et elle s'est quand même inscrite en médecine. Elle est aujourd'hui en troisième année.
Donc tout s'est bien passé.
Ça s'est très très bien passé pour elle. Elle est très très bien classée. Et elle savait qu'elle voulait faire médecine. Elle a toujours été passionnée par la médecine. Et malgré tout, l'école ne lui a jamais trop convenu. Elle a toujours été assez moyenne à l'école. Mmh. Mais elle savait ce qu'elle voulait faire. Mmh. Malgré tout, vraiment, elle est tombée sur... elle a toujours eu un prof, vous voyez, sur l'ensemble qui disait « N'essayez pas de la décourager, elle veut aller en scientifique, par exemple, elle est là en scientifique, donc elle a fait un bac scientifique, qu'elle a eu sans mention, tout à fait, voilà, normalement, mais sans mention. Mais son année terminale a été délicate, elle a eu un prof qui n'arrêtait pas, enfin, elle la convoquait quasiment à chaque fin de cours et lui disait « Non, mais ça, c'est pas pour toi ». Et ce qu'elle me disait, parce que j'ai échangé avec elle par rapport à ça, elle dit ce qui est dommageable, c'est que on peut briser des rêves parce que l'élève au collège et au lycée, il est connu, il a son dossier, et si par exemple ça peut ne pas bien se passer qu'un prof, il traîne son dossier, il traîne une image. Et puis du coup, il peut pas écrire sa propre histoire. Et elle a dit, moi j'ai eu une chance folle, c'est que moi j'avais demandé médecine, je savais que je voulais faire médecine. Elle dit, quand on arrive en médecine, on est un numéro, hein, on n'a pas de, il n'y a pas de jugement, et on découvre de nouvelles matières. Et elle dit, voilà, moi ça m'a passionnée tout de suite, et elle a cartonné tout de suite, et ça a surpris les gens.
J'entends votre inquiétude qui est assez intéressante, Hélène. François Germinet, la fille d'Hélène aujourd'hui, elle courrait le risque d'être écartée?
Alors, vous allez avoir l'exemple opposé, c'est-à-dire l'étudiant qui n'arrive pas à briller par ses notes, mais les professeurs vont sentir qu'il y a une motivation profonde, des capacités, d'accord, et puis qui, du coup, vont pouvoir pousser le dossier. Après, ce que dirais aussi, c'est que l'université n'est pas l'école et le lycée. Et que donc, on sait très bien que nous avons des profils d'étudiants qui ne s'épanouissaient pas dans le système du lycée, et par contre s'épanouissent très bien au sein de l'université. Les professeurs en sont tout à fait conscients. Et ça, ce sont des éléments qui se traduisent dans une lettre de motivation, par exemple.
Hélène, vous êtes sceptique ?
Je suis très sceptique. Vraiment, je suis sceptique. Les professeurs, ils jugent essentiellement par rapport aux notes. Après, des élèves qui sont moyens, mais qui sont bien vus, on va leur dire « oui, mais il est courageux », etc. Donc, éventuellement, mais je dirais que non, le cursus vraiment scolaire n'a tellement rien à voir que ça me gêne. Autant, j'aurais dit, tiens, pour les BTS, c'est presque une continuité, ça reste très scolaire, les matières, on reprend un peu les mêmes matières. Là, vraiment, le cursus universitaire, quelqu'un qui veut faire fac de droit, les matières, elles ne sont pas les mêmes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient de l'autonomie, je suis d'accord là-dessus, hein, je crois que votre intervenant l'a dit, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils aient peut-être l'esprit de synthèse. Je n'ai pas une grande confiance, à dire vrai, dans le travail qui peut être fait au niveau des collèges et des lycées pour pousser les élèves positivement. Nous, on n'a fait que la pousser positivement, on l'a toujours encouragée, mais j'ai eu le sentiment qu'il y a quand même pas mal de professeurs qui faisaient plutôt majoritairement un travail inverse, plutôt de pessimisme. Et c'est ce qui est dommageable. À côté de ça, je vous dis, il y a peut-être 10% des profs qui sont capables de déceler cette envie, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient tous là-dedans.
Bon, on est ravis en tous les cas pour votre fille, Hélène, que ça se passe parfaitement aujourd'hui. Et on lui souhaite bonne chance pour la suite, parce que les études de médecine, ça dure et ça dure très 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 longtemps.
Mais elle a fait le plus dur.
Et elle a fait le plus dur, peut-être. On lui souhaite. Merci Hélène, belle journée du côté de Nantes, en Loire-Atlantique.
Merci.
C'est Catherine de Valenciennes qui va prendre la parole dans un instant. Vos appels, vos sentiments, vos témoignages, c'est au 3210 que ça se passe. Nous sommes toujours avec François Germinet, bien sûr, le président de l'université de Cergy-Pontoise. À tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Ouais, bien sûr, continuez de parler de la sélection à l'université avec vos témoignages dès maintenant au 32-10. Et dans quelques minutes, on va se pencher sur le football avec la scène assez ahurissante qui a eu lieu hier soir lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Quand l'arbitre de la rencontre est percuté par un joueur en nantais, que les deux hommes se retrouvent à terre et qu'en se relevant, l'arbitre, avant de mettre un carton jaune au joueur nantais, lui assène un coup de pied. Scène surréaliste. Ici,
comme
dans une cour d'école. Bonjour l'exemple. Voilà ce que vous allez nous dire, notamment si vous êtes dans le monde amateur, et ça peut avoir des répercussions. Monsieur Tony Chaperon, qui est l'arbitre en question, est pour l'instant mis hors jeu jusqu'à nouvel ordre. Vos appels, vos témoignages, si vous avez trouvé ça complètement fou, vous soyez amateur de football ou pas, et des conséquences conséquences que ça peut avoir sur les jeunes le week-end dans les rencontres dites traditionnelles du week-end. Mais vous êtes les bienvenus dès maintenant au 3210, on va vous écouter.
En attendant, on en revient à cette plateforme Parcoursup lancée ce matin pour les admissions post-bac et qui évitera les tirages au sort dans les filières surchargées, mais qui va évidemment faire le tri entre les élèves. Ça fait réagir Catherine qui nous appelle de Valenciennes. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors vous avez, je crois, un enfant qui va devoir s'inscrire là sur cette plateforme cette année.
Oui, tout à fait. Et l'aîné qui a eu affaire à APB l'année dernière. Donc vous voyez, je suis bien au courant de l'ancien système et du nouveau. Voilà.
Alors votre regard, est-ce que vous approuvez ce qu'on qualifie de sélection à l'université aujourd'hui ou pas?
Oui, je vais dire oui. Alors bien sûr, avec l'auditrice précédente, il faut nuancer. C'est vrai que parfois, il peut toujours avoir des exceptions. Mais moi, oui, parce que quand vous allez postuler plus tard, il y aura toujours une sélection. Et pourquoi envoyer des élèves qui n'ont pas eu forcément un parcours adapté aux critères attendus vers... Non, moi, je suis bien d'accord avec les avis des professeurs. Là, mon fils qui est en terminale a les avis et correspondent à son profil. Bon, pourquoi envoyer... Alors, il ne faut pas dénigrer certaines... Mais on ne va pas postuler à une classe prépa si on n'a pas fait... Enfin, il faut être honnête, à un moment donné, ça va coincer. Moi, je vois... Mais mon fils aîné, il a eu des amis qui ont postulé en STAPS, parce que c'est un peu la mode. Bon, ils n'avaient pas une formation tout à fait scientifique. Bon, quelques éléments vont réussir. Et ils ont du mal, ils veulent abandonner, parce qu'il n'y avait pas derrière... Voilà, donc... Voilà, moi voilà mon...
François Germinet, pourquoi on ne prononce pas le mot sélection? On a l'impression que c'est un gros mot.
En même temps, je ne vois pas pourquoi se focaliser sur ce terme-là qui énerve tout le monde. Parce que là, ou alors on accepte de dire qu'il y avait une sélection auparavant, à la fois une sélection par le tirage au sort, une sélection par l'échec ensuite, puisque si vous accueillez un grand nombre d'étudiants et puis que vous êtes des étudiants qui, pour certains, ne sont pas en adéquation avec les attendus de la filière, mais du coup, ils sont en échec, ils se sentent mal. Et voilà, et quand vous avez un taux de passage de 40% de la première année à la deuxième année, ça s'appelle aussi sélection. Donc, soit on est en train de dire qu'il y avait beaucoup de sélections auparavant, une sélection sauvage, et puis on essaye plutôt de la réguler pour avoir une sélection douce et qui permette d'avoir une affectation des étudiants au plus près de ce qu'ils peuvent faire et puis de leurs souhaits, ou alors on ne parle pas de sélection.
Catherine, vous avez tout compris, vous, aux procédures des prochaines semaines?
Oui.
Ça vous paraît plus simple, liste, puisque vous avez justement, vous êtes entre les deux. Alors, on est passé de 24 vœux à 10 vœux, ça vous paraît plus réaliste?
L'année dernière, ça ne m'a pas paru forcément compliqué. On en a fait beaucoup. Après, bien sûr, parce qu'il y a eu des élèves qui ont été refusés, donc là, évidemment. Mais la plateforme en elle-même nous a pas paru énormément compliquée. Non, après ce qui a coincé, c'est après, parce que voilà, il y a eu des filières qui étaient un petit peu complètes, mais là, non.
Et si votre enfant reçoit une réponse oui, mais, c'est-à-dire qu'il lui faut une remise à niveau?
D'ailleurs, dans ses choix, déjà, bon, il va faire en conséquence pour avoir des portes de secours. Faut être lucide, voilà, si jamais, et je pense en fonction de son profil, s'il met quelque chose, il va viser certaines choses et il mettra toujours quelque chose où je pense, d'après le profil, toujours avoir quelque chose qui peut correspondre.
Les mises à niveau, expliquez-nous, François Germinet, ça va consister en quoi?
Eh bien, vous pouvez avoir des élèves qui ne sont pas forcément très loin des attendus de la filière souhaitée, mais ils ne sont pas tout à fait au niveau. Et donc, ils peuvent, par exemple, donc là, je prends le cas de mon université, avoir quelques modules de complément pour rattraper leur retard dans certaines filières. S'ils sont un peu plus loin et que c'est un peu plus difficile, on peut leur proposer de prendre leur temps et de, par exemple, faire la première année en 2 ans pour ne pas avoir tout en même temps et de ne pas avoir à apprendre tout et se rattraper sur tout. Et puis pour des élèves qui seraient en forte reconversion, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs années de retard en terminale parce que, par exemple, ils ne seraient pas sur la bonne filière et qu'il y aurait donc plusieurs disciplines pour lesquelles ils n'auraient pas acquis les compétences nécessaires, eh bien, on peut proposer des années de remise à niveau.
Marie-Claire nous rejoint de Moselle au 3210. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à vous aussi.
Bonjour, bienvenue, parlez-nous de votre fils. Il est en terminale ES, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Il est en terminale ES en section européenne anglais pour l'instant. Oui. Et en fait, moi, je rejoins tout à fait la première maman qui
Hélène,
disait
oui.
que, voilà, avec sa petite Charlotte qui avait été complètement dénigrée par des profs qui disaient que c'était pas pour elle la filière de médecine et qui finalement est en troisième année. Parce que moi, j'ai un petit... Enfin, le souci qu'on a avec mon fils, c'est que... Alors, lui, il a son parcours professionnel tout tracé. Enfin, c'est... Il veut pas faire autre chose, il veut être professeur d'anglais. Mmh. Et, bon, il est très bon en anglais. Il n'a aucun souci, très bon en italien aussi. Le problème, c'est qu'il a des résultats moyens pour l'instant dans les autres matières, ce qui fait qu'il tourne autour de 9,5 de moyenne générale. Avec manque de chance pour lui, ses professeurs qui sont persuadés qu'il ne fiche rien, parce qu'il n'a pas de résultat. Voilà, il a du mal, en maths c'est une horreur, enfin bon. Donc ses professeurs sont persuadés qu'il ne fiche rien, et donc moi je me dis, mais s'ils donnent des commentaires, enfin que c'est eux qui poussent, bah moi ils vont lui dire, bah toi tu fiches rien, donc tu vas nulle part. Mmh. Or lui, il a qu'un vœu. Il n'en a même pas deux, il en a un. Il veut juste aller en licence d'anglais pour devenir prof. Et moi, je me dis, voilà, moi, ça me fait peur, quoi, parce que je me dis, s'ils l'ont catalogué.
Bien sûr. François Germinet, vous pouvez rassurer Marie-Claire.
Oui, mon conseil, c'est de postuler sur plusieurs universités, si possible, en licence d'anglais. Et là, il y a plusieurs filières. Il y a des licences classiques qu'on appelle les LLCE, pardon pour le jargon des collègues, et puis des licences d'études appliquées de langues appliquées, par exemple. S'il fait anglais-italien, il y a des très bonnes filières pour ça. Donc voilà, bien se renseigner et puis postuler à un plus grand nombre possible de filières de ce type. Et après, la rassurer sur le fait que les profs d'anglais sont recherchés, donc son fils essaye d'aller dans une voie d'avenir où il y a du travail, donc c'est déjà pas mal. Et les collègues qui sont en université, les responsables de première année, eux, quand ils vont voir les dossiers, évidemment, ils vont surpondérer les notes d'anglais et puis la motivation à devenir professeur d'anglais. Donc du coup, ça devrait aider son dossier.
Marie-Claire, ça va mieux?
Bah, tant mieux.
Vous avez bien fait d'appeler. Restez avec nous. On voudrait poursuivre cette conversation rapidement avec Isabelle qui est à Paris. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Ben voilà, moi c'est un rapport d'expérience similaire à la dame avant moi et à Hélène et sa Charlotte, pour lequel je suis vraiment contre toute poursuite de dossiers scolaires dans le cadre universitaire. J'estime que l'école, c'est une page qui se tourne et qu'il faut ouvrir une nouvelle page pour ses enfants. Et qu'effectivement, ben pareil, c'est des expériences où les enfants sont sans cesse dévalorisés, n'ont pas confiance en eux, et des gens extrêmement moyens à l'école peuvent se révéler très 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 bons, quoi, très bons dans le système universitaire, et ils n'auront pas la possibilité de passer, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup de gens qui vont pas réussir à passer, parce que quand vous avez des observations scolaires très très dévalorisantes et très très injustes, bah, vous êtes un enfant et vous êtes aussi les parents, vous n'allez pas passer votre temps à aller débattre avec le professeur lui dire mais pourquoi vous mesurez pas. Donc je ne suis pas pour ça. Et je dis juste une chose, si vous voulez bien, c'est ne comprends pas, merci, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, alors dans ces cas-là, puisque c'est une sélection, donc il faut appeler ça une sélection, un système de concours. À ce moment-là, on fait un concours d'entrée à l'université, ceux qui sont très déterminés bossent et ils savent qu'ils rentrent vraiment sur leurs notes et pas sur leur dossier scolaire et pas sur les a priori que leur ont plaqué des professeurs. Voilà.
François Germinet, pour conclure et pour répondre à Isabelle.
Un concours, bien des gens vont dire que c'est le baccalauréat. Donc on pourrait se baser sur les notes du baccalauréat. Après, on sait bien qu'il y a des biais. Il y a des jeunes qui s'expriment très bien en contrôle continu, qui vont avoir plus de mal face au stress d'un examen. Donc il y a des biais dans tous les sens. Mais là où je veux rassurer, c'est que l'université, ce n'est pas l'école. On en a bien conscience. Les responsables pédagogiques en ont bien conscience. Ils savent faire la part des choses entre ce qui est écrit dans un dossier et puis le potentiel d'un étudiant. Après, les capacités d'accueil sont ce qu'elles sont. Et on ne peut pas forcément répondre positivement à toutes les situations. Et on a vu par ailleurs beaucoup de gâchis humains pour des élèves qui pensaient pouvoir suivre et qui ont perdu un an, deux ans, trois ans. On a énormément d'exemples de ce type, hélas.
Merci beaucoup. Merci François Germinet d'avoir dialogué avec les auditeurs d'RTL. Et on vous souhaite bien du courage, hein, parce que dans les facs, il va falloir donner des réponses, quelques centaines de milliers de réponses d'ici au 22 mai. Bon courage, à bientôt François Germinet.
Merci, on y va, on est motivé.
Il faut...
Dans un instant, on parle ballon rond, on parle arbitrage en France. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui après l'épisode d'hier entre Nantes et le Paris Saint-Germain? Et au milieu de tout ça, monsieur Tony Chaperon, on en parle avec vous. 3210, 3210, à tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière,
Stéphane Carpentier.
Et le deuxième invité des auditeurs ont la parole de ce lundi est Bruno Derrien, l'ancien arbitre international de ballon rond et notre consultant football sur RTL. Bonjour.
Bonjour.
Nous avions besoin de votre regard car les amateurs de football et même au-delà d'ailleurs ne parlent que de cela depuis ce matin autour du café, de cette séquence invraisemblable hier soir dans les dernières minutes du match de Ligue 1 entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Séquence dont le rôle principal est tenu par l'arbitre monsieur Chaperon qui se retrouve à terre dans une course percutée par un joueur nantais et qui, en se relevant, donne un coup de pied au joueur avant de l'avertir d'un carton jaune qui se transforme en rouge et donc en expulsion. C'est du jamais vu ou presque. Même nos commentateurs hier soir sur RTL n'en revenaient pas. Écoutez.
Oh, monsieur Chaperon qui alors pour moi, c'est monsieur Chaperon qui est en faute quand même, parce que ça peut arriver qu'un Nantais dans sa course bouscule l'arbitre de manière involontaire. À mon avis, c'est ce qui s'est produit.
C'est génial, derrière, ce que fait Chaperon.
Incroyable. Incroyable image. Tente de donner un coup de pied à Diego Carlos. C'est invraisemblable. C'est monsieur Chaperon qui devrait prendre un carton rouge. Non, c'est pas Diego Carlos.
Attends,
c'est invraisemblable.
Extraordinaire cette image.
Incroyable.
C'est lui qui bute sur le défenseur. Il essaie de lui faire un croche-patte après en pensant que Diego Carlos a fait un mauvais geste sur lui.
C'est honteux cette décision de monsieur Chaperon.
Bon, c'est n'importe quoi, Bruno Derrien.
Ah oui, c'est un geste totalement lunaire. Moi, j'ai jamais vu ça sur un terrain. C'est souvent, pourtant, l'arbitre qui est souvent bousculé, poussé sous la pression physique des joueurs. Mais c'est la première fois que je vois un geste pareil de la part d'un arbitre. J'ai pas d'explication. J'aurais aimé savoir pourquoi il a réagi comme ça, monsieur Chaperon.
C'est un coup de sang, c'est un pétage de plomb, c'est quoi?
C'est un coup de sang, probablement. Mais alors, je pense qu'il doit avoir l'intime conviction qu'il a été bousculé sciemment par le joueur nantais et qu'il réagit comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un geste de cours d'école, quoi, de cours de récréation. Mmh. C'est pas normal qu'un arbitre de ce niveau-là puisse commettre un tel geste. L'arbitre de haut niveau doit être au-dessus de la mêlée, il doit maîtriser sa réaction.
Il donne un jaune, ça se transforme en rouge puisque c'était le deuxième carton jaune, hein, c'est ça. Il siffle coup franc pour le PSG même.
Oui, parce qu'il estime qu'il a été bousculé probablement par le joueur nantais. Ou alors peut-être c'est un échange de propos qui sanctionne. Enfin, tout ça n'est pas très clair en fin de compte.
Alors il fait un peu amende honorable depuis ce matin.
Oui.
Il est écarté jusqu'à
nouvel ordre. C'est-à-dire qu'il a un carton rouge de, a priori de la direction de l'arbitrage. Il devait diriger mercredi soir le match entre Angers et Troyes, donc il est au repos. Et probablement il sera donc convoqué devant la commission de discipline de la Ligue.
On peut s'attendre à quoi? Est-ce que...
Il y aura une sanction, il y a des précédents. Ouais. Rappelez-vous, en 2015, lors d'un Bordeaux-Lens dirigé par Philippe Calte, il avait repoussé vertement un Lensois. Il avait été convoqué en commission discipline, l'arbitre. Il avait pris un match de suspension ferme. Donc, bon, on verra quelle sanction sera prise par la commission discipline.
C'est un geste incroyable parce qu'en plus, il doit mettre un terme à sa carrière. Là, dans quelques
il arrête sa carrière en juin prochain. Il a atteint par la limite d'âge qui est de 45 ans.
Donc, si ça se trouve, il ne retrouvera jamais le gazon. C'est possible. Restez avec nous. Ça fait réagir beaucoup, beaucoup de monde au 32-10. On accueille Julien qui est à Besançon. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour.
Alors, votre avis nous intéresse parce que vous êtes footballeur amateur.
Ah oui, et puis arbitre aussi, mais dans un autre domaine. Oui. Et je trouve ça vraiment choquant pour le monde amateur. Comment voulez-vous que les arbitres amateurs soient respectés si on voit ça à la télé, quoi. C'est compliqué quand même. Hein.
On est toujours en train de dire les joueurs doivent montrer l'exemple. On a aussi l'arbitre Bruno Derrien qui doit montrer l'exemple.
Ah, complètement. Au plus haut niveau, on doit être exemplaire dans son attitude pour être respecté. Encore faut-il être respectable sur les terrains.
Julien ?
Oui, c'est fait.
Oui, on vous entend. Pour vous, c'est encore plus grave cet épisode pour le football amateur presque que pour le football professionnel ?
Ah bah oui, parce que l'exemple n'est pas fait. Hein.
C'est ça.
Donc c'est vraiment grave, quoi. J'espère qu'il va prendre au moins 10 matchs, quoi, pour bien comprendre. Après, ça arrive. Après, il fait des efforts physiques, il revenait d'une grande course, il peut avoir un coup de pression aussi. Hein. Et on ne sait pas ce que le joueur a dit aussi quand il était dans son dos. Il a pu l'affecter.
Oui, mais ça fait partie du jeu, ça. Enfin, c'est pas exceptionnel, Bruno Derrien, ce qui lui est arrivé ce week-end.
Non, mais moi, j'ai été télescopé dans un match. Ça m'est arrivé de tomber à terre parce que voilà, j'ai croisé la route d'un attaquant, mais c'est pas pour autant que je vais mettre un tacle au joueur qui m'a fait tomber. Voilà, c'est pas acceptable. Bon, je crois que il fait amende honorable ce matin. Il va rédiger un rapport en disant qu'il a mal perçu l'action. Voilà, c'est un bon début. Je pense que je reprends moi qui s'exprime publiquement.
Ouais. Jean-Michel arrive de Thonon-les-Bains au 32-10. Bonjour, Jean-Michel.
Bonjour et bonjour à tout le monde.
Bonjour, bienvenue.
Dites-nous.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous regardez le match depuis le début, ce garçon qui a fait tomber l'arbitre, malheureusement, je dis malheureusement pour lui parce que l'arbitre regardait ailleurs, donc ils étaient tous les deux dans le même sens, je pense que le joueur aurait pu essayer de s'écarter de l'arbitre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous regardez le match depuis le début, il l'a repris 2-3 fois. En lui faisant comprendre qu'il avait des gestes qui n'étaient pas normaux. Et ça, on le revoit sans arrêt sur les matchs. Moi, je suis pour un arbitrage sévère. L'arbitre, c'est une pièce maîtresse du foot, on ne doit pas y toucher. Il est tombé à terre, eh ben, le gars il revient en arrière, il le lève, il s'excuse ou il en parle. Mais effectivement, sur les terrains de foot, il se passe des choses comme les mots, comme le comportement des joueurs. Moi, je regarde pratiquement tous les matchs. Je trouve ça, ces mecs qui crachent sans arrêt. D'ailleurs, je vous dis, le foot, c'est le seul sport où les joueurs jouent dans leur crachat. C'est honteux de voir, d'ailleurs, avec votre télévision, vous êtes toujours en train de faire des gros plans, et 90%, c'est quand le mec, il crache. Alors, j'arrive pas à comprendre qu'on s'en prenne un arbitre qui a certainement fait une carrière exemplaire pour un petit geste, peut-être, comme la personne a dit avant, où il a peut-être été insulté en avançant, on ne sait pas. Je crois qu'il faut relativiser tout ça. Hein. Il faut être sur le terrain pour comprendre ce qui se passe.
Là où je vous rejoins, vous avez entièrement raison, c'est qu'il faut protéger l'arbitre. Au football, l'arbitre est trop souvent sous la pression des joueurs. On ne voit pas ça au tennis, on ne voit pas ça au rugby, où il y a un vrai respect de la fonction arbitrale. Dès qu'un arbitre siffle un pénalty ou prend une sanction, tout de suite, il est entouré, encerclé par les joueurs, sous la pression poussée. Et ça, c'est intolérable et vous avez entièrement raison, il faut le sanctionner. La contestation et le cancer du football, on est tous bien d'accord. Mais un arbitre ne doit pas réagir comme il a réagi hier, c'est tout.
Juste pour l'exemple en plus. Jean-Michel et Julien, vous êtes les bienvenus si vous voulez rester là pour la suite du débat, puisque vous êtes nombreux à vouloir intervenir au 32-10. On a Jérôme qui va nous rejoindre et Dominique aussi qui a un avis depuis Bordeaux. 32-10, 3-2-1-0 sur le cas Chaperon hier soir. On analyse tout ça avec Bruno Derrien sur RTL. A tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière,
les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
L'arbitre Tony Chaperon suspendu jusqu'à nouvel ordre après avoir donné un coup de pied à un joueur nantais hier soir. On en parle avec vous au 32-10. On est en studio avec Bruno Derrien, l'ancien arbitre international. Et Jérôme nous appelle des Côtes d'Armor. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour à vous deux.
Je crois que vous êtes assez ulcéré.
Pardon ?
Je crois que vous êtes assez ulcéré.
Oui, quand je vois un tacle comme ça, sans ballon, sur le joueur de Nantais, ça mérite un certain nombre de commentaires.
C'est-à-dire
toujours est-il qu'il faut... ces arbitres professionnels doivent montrer l'exemple. Et ça, un titre d'exemple, c'est... Moi, j'étais ancien gardien de but de football. Je suis aujourd'hui gardien de but de handball. Mais ces gardiens, enfin, ces joueurs... voir la télé, comme vous l'avez précisé. Cet exemple qui a été présenté hier soir montre aussi les failles d'un certain système qui s'est instauré. Moi, j'ai été blessé, j'ai eu une triple fracture de l'os malaire, un coup de pied dans la tête, non sanctionné, etc. J'ai fini à l'hôpital, j'aurais pu finir directement dans la petite boîte que vous voyez souvent aux obsèques. Cet exemple-là d'hier soir va donner toute légitimité aux joueurs sur les terrains de pouvoir faire ce qu'ils veulent parce que l'arbitre ne respecte plus les textes. Allô ?
Bruno Derrien.
Oui, bon, je suis d'accord, il ne faut pas généraliser. C'est quand même un acte isolé. Heureusement qu'on ne voit pas ça sur les terrains tous les week-ends. Moi, c'est la première fois, ça fait 30 ans que je suis le football, je n'ai jamais vu ça. Donc, il y a des arbitres qui se comportent très bien. On peut les citer, M. Buquet, M. Turpin, le jeune arbitre rennais que vous devez connaître, François Le Texier. Voilà, ce sont des arbitres d'avenir. Ne généralisons pas. Condamnons ce qui s'est passé hier soir. C'est un fait isolé.
Oui, tout à fait. Et moi, je tenais justement par rapport à ce qui s'est passé hier soir, à aussi mettre en valeur les arbitres volontaires ou bénévoles.
Oui. et qui font très très bien le boulot dans des conditions difficiles. Très
et qui, pour assouvir leur passion, prennent des fois des risques considérables. On manque d'arbitres en France. Plus d'un match sur deux n'est pas dirigé par un arbitre officiel.
Dominique, votre sentiment de Gironde à Bordeaux. Bonjour Dominique, bienvenue.
Oui, bonjour, merci de me prendre, c'est gentil.
Bonjour.
Simplement, bon, le cas que j'ai vu hier soir à la télé aussi, hein, pour moi, est assez anecdotique. Par contre, ce qui l'est beaucoup moins, c'est ces entraîneurs de Ligue 1 ou Ligue 2 qui sont souvent face caméra ou face micro, ces dirigeants et ces présidents qui passent leur temps à critiquer les décisions d'arbitres. C'est quelque chose de devenu insupportable. Moi, j'ai entraîné à un niveau très correct. J'avais un seul message à donner. L'arbitre fait son job. Vous, joueurs, faites le vôtre. C'est très simple. C'est très, très simple. C'est très simple d'arbitrer parce qu'en fin de compte, si on considère que dès l'instant où l'arbitre a pris une décision, cette décision ne sera pas remise en cause, les joueurs se libèrent de toute contestation et ils continuent à jouer au football. C'est un apprentissage à faire permanent. Et lorsque l'on prend le micro et que l'on dit « cet arbitre a fait ceci, ce n'est pas normal » quand c'est des gestes ou des mots beaucoup plus importants, ils ne savent pas le mal qu'ils font. Et la résultante de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au foot, pour être arbitré, il faut 5 à 6 arbitres, rendez-vous compte. Il faut des vidéos surveillance qu'on demande qui seront totalement impossibles, puisque, en ces termes, le football est totalement immature. D'autres sports ont réussi cette révolution, ils y sont ils y veillent énormément. Le rugby, pour exemple, où vous pouvez avoir n'importe quel arbitre, même féminin, face à des gros costauds, il respecte les lois du jeu.
Bon, on dit rien, il faut respecter les arbitres.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, on gagne toujours sur ses propres mérites et on perd toujours par la faute des autres. Et c'est très vrai, malheureusement, dans le football.
Voilà, pas mal de réactions, évidemment, sur notre page Facebook. Laurent Tessier, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Oui, Eric Kahn n'y va pas par quatre chemins. Agression d'un joueur, carton rouge injustifié, cet arbitre ne doit plus être sur un terrain. Pour Sylvain, la réaction de Tony Chaperon est à l'image du niveau de nos arbitres en France. Mauvais, la preuve, ils sont régulièrement absents des compétitions internationales. Un avis soutenu par Rudy, il est la preuve vivante que les arbitres français ne sont pas au niveau et se prennent en plus pour des cadors. Au moins, il a trouvé le bon moyen de partir en retraite anticipée. Il faut changer de sport, monsieur Chaperon, et vous lancer dans le karaté, écrit Jean-Yves. Mais attention, nous dit Joël, il a peut-être pété un plomb, mais voilà, c'est comme ça, c'est arrivé. À toutes celles et tous ceux qui ont la critique facile, je vous engage à prendre le sifflet et aller sur le terrain avec 30 000 personnes qui vous insultent en permanence. On reparlera de votre réaction. Hein.
Évidemment, le débat se prolonge sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Merci Bruno Derrien.
Merci à vous.
De nous avoir éclairés. Merci à tous les auditeurs qui se sont exprimés, à Dominique, notamment à Jérôme aussi, et puis à Jean-Michel qui avait un avis tout à l'heure tranché sur l'arbitrage. On va y revenir, j'en doute pas, dans RTL Soir tout à l'heure à 18h.